Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. On s'interroge ce soir sur le nouveau modèle du travail. Alors que l'heure est à la reprise économique dans le monde, qu'est-ce que la pandémie de Covid-19 a transformé, a bouleversé? Alors, il y a de nouvelles formes qui ont émergé, le télétravail, bien évidemment. Qu'est-ce que la pandémie a apporté de positif dans ce domaine, de négatif également, bien évidemment? Qu'est-ce qui peut être pérennisé? On parle de tout cela à l'occasion de la réunion annuelle des membres de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui se tient aujourd'hui et qui se déroule, Nouveau Monde oblige, de manière virtuelle évidemment. Soyez les bienvenus. Et pour répondre à nos questions, notre invité ce soir, à nos côtés en studio, Caroline Diard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante, chercheure en management des ressources humaines et droit à l'EDC Paris Business School. Alors d'abord, je voudrais commencer par ces mots du directeur général de l'OIT, justement l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder, qui a dit donc aujourd'hui en ouverture de la réunion annuelle de ses membres, je cite, « L'expérience professionnelle de cette pandémie a été pour certains synonyme d'inconvénients, d'ennuis, de stress et de frustration, et pour d'autres, elle a été synonyme de peur, de pauvreté et de survie. » Est-ce que pour vous, Caroline Diard, c'est... Ainsi, le résumé de l'impact de la crise sur le monde du travail, selon vous?
Alors, effectivement, cette crise que nous avons subie de plein fouet et de façon mondiale a changé la nature du travail et notamment a eu un effet de loupe sur le travail à distance, le télétravail, qui n'était pas aussi développé avant la crise sanitaire. Alors, ce nouveau mode de travail confiné, en mode dégradé, en mode subi, d'un seul coup, à temps plein, a eu pour conséquence effectivement un certain nombre d'inconvénients, mais pas que des inconvénients. Alors, dans la liste des inconvénients, on retrouve effectivement des difficultés à se déconnecter, un isolement, du stress, des personnes angoissées, des personnes qui se sont retrouvées privées d'emploi, des personnes en chômage partiel, donc avec des situations de peur de l'avenir, effectivement. Donc je rejoins exactement ces propos.
C'est la première chose, en tout cas, qui ressort, selon vous, de la pandémie sur le monde du travail, c'est le développement du télétravail?
Alors, c'est pas uniquement le développement du télétravail, mais effectivement, il y a eu un effet de loupe phénoménal sur le télétravail, parce que d'un seul coup, il a fallu assurer une continuité économique.
Et ça 580 a été... millions de personnes qui se retrouvent en télétravail en 2020.
Ça a été une question de survie. Alors évidemment, tout le monde n'a pas été en mesure d'être en télétravail. Hein. Les caissières dans les supermarchés ont fait partie de ces travailleurs qu'on a dit de la première ligne. Mais leur travail, à elle aussi, a été modifié, puisque les conditions de travail ont changé. Donc on a d'un côté une nouvelle forme de travail qui se développe de façon exponentielle, le télétravail, donc dans la continuité de ce qu'on avait connu avant, mais là, de façon plus importante. Et également des conditions de travail qui sont dégradées pour les personnes qui sont en présentiel, avec des conditions sanitaires difficiles, avec des protocoles à respecter. Il faut porter un masque.
Encore maintenant.
Voilà, tout à fait.
Alors que l'heure est à la reprise, alors qu'on semble un petit peu commencer à sortir un petit peu de cette crise, pour vous, l'organisation du travail n'a pas profondément changé par rapport à ce qui a pu se passer au plus fort de la crise pour les personnes qui devaient être en présentiel?
Alors, pour les personnes en présentiel, l'organisation du travail reste difficile dans un contexte de protocole sanitaire qui est toujours renforcé et de vigilance. Donc, on a des conditions de travail qui sont différentes de ce qu'on a connu avant la crise sanitaire. Pour les personnes qui avaient la possibilité de télétravailler pendant la crise et qui reprennent petit à petit le chemin du bureau, on est un peu sur un mode hybride. Et ça nous laisse imaginer la suite. C'est-à-dire le monde d'après. Le télétravail qui ne sera plus à temps plein, qui ne sera pas subi, dans la base d'un volontariat, 1, 2, 3 jours par semaine, avec du coup son lot d'inconvénients, on les a cités, mais aussi davantage. C'est-à-dire on perd moins de temps dans les transports, on pollue moins, on n'est pas dans les embouteillages, on est plus concentré et les études l'ont révélé, on est également plus productif.
Alors comment le télétravail justement peut-il être pérennisé? On va écouter un court extrait. Cette Allemande devrait continuer à faire du télétravail après la crise et pour cause, elle fonctionnait déjà ainsi avant la pandémie. On écoute ce témoignage.
J'ai fände das für andere einfach auch schon toll, diese
Flexibilität. Sans Coronavirus, pouvoir passer en télétravail est un énorme avantage. J'ai ce qu'on appelle des horaires de travail flottants. Je peux décider la plupart du temps quand je dois travailler, tant que je fais toutes mes heures. Je peux donc travailler depuis la maison si nécessaire. Et pour concilier vie familiale et vie professionnelle, le télétravail est un formidable outil.
Um das vereinbaren zu können, finde ich das super.
Alors, on peut faire un bilan de cette expérience du télétravail maintenant. Est-ce que la pandémie a levé toutes les peurs qui étaient liées à ce télétravail, notamment côté employeur? Elles étaient importantes, ces peurs des employeurs qui avaient le sentiment de moins pouvoir suivre ce que faisaient leurs employés?
Alors, avant la pandémie, on avait effectivement déjà des personnes en télétravail dans un cadre très souvent bien organisé, formalisé. Et les personnes qui étaient en télétravail étaient des personnes dites éligibles. Donc, il y avait un poste où on peut travailler très facilement à distance avec des outils technologiques et également des logiciels adéquats. Alors, ces personnes, c'était majoritairement des personnes à qui on faisait confiance. Mmh. Donc, il y avait la notion d'autonomie, de confiance, comme point de départ pour télétravailler. Les employeurs se sont rendus compte qu'on pouvait faire confiance, on pouvait déléguer davantage et on pouvait aussi lâcher prise dans le contrôle. Surtout que les études que j'ai menées ont révélé que les télétravailleurs, d'eux-mêmes, développent une forme d'autocontrôle. Donc, il est pas nécessaire de mettre une pression exacerbée sur un télétravailleur, puisque de lui-même, il va formuler un reporting à sa façon et il va montrer qu'il est finalement bon élève et qu'il mérite le télétravail. Alors, la notion de télétravail aujourd'hui va faire partie intégrante aussi de la marque employeur, c'est-à-dire qu'on va être en mesure d'attirer des nouvelles recrues, des jeunes recrues, en disant « venez chez nous, il y a du télétravail ». On travaille en mode hybride. Et ça va faire partie des arguments de recrutement, alors qu'avant, ça n'en faisait pas partie.
Mais donc alors, c'est nouveau. Est-ce que le télétravail n'est pas un marqueur, et on va en parler évidemment, des inégalités que cette crise a révélées, a aggravées, je le disais, 580 millions de personnes qui se sont retrouvées en télétravail en 2020, 18% des travailleurs dans le monde, une proportion plus importante dans les pays à haut revenu, 27% contre 12% dans les pays à faible revenu, c'est plus du double. C'est quelque chose qui risque de perdurer, justement, la pandémie passée.
Alors oui, effectivement, il y a deux aspects sur la création d'inégalités avec la pandémie et les études le montrent et je suis en train de travailler actuellement sur les inégalités hommes-femmes qui ont été créées avec une situation de télétravail contraint. Alors ce sont des inégalités dites de genre qui sont liées à une inégale répartition des tâches domestiques. Mais il y a également des inégalités qui sont liées aux catégories socio-professionnelles. Donc des ouvriers ou des caissières qui n'ont pas pu télétravailler, finalement, ont été défavorisés parce qu'ils ont été en première ligne par rapport à des professions plus tertiaires qui ont pu rester travailler à domicile. Donc effectivement, ça a créé des inégalités par rapport aux catégories socio-professionnelles, mais également, ça a créé des inégalités dans la production de richesses individuelles, dans la mesure où certaines personnes se sont retrouvées en chômage partiel. Donc ça a probablement créé pour ces personnes des difficultés économiques et d'autres se sont retrouvées aussi à perdre leur emploi. Tandis que les autres ont conservé leur emploi à domicile finalement.
Et puis au sein même du télétravail, il y a des inégalités parce qu'il y a la fracture numérique par exemple qui est révélée par le télétravail.
Alors, il y a la fracture numérique, c'est une chose. Je pense que c'est pas le premier argument parce que la fracture numérique s'est quand même réduite considérablement ces dernières années.
Il y a la fracture aussi entre les cadres. Peuvent faire du télétravail les ouvriers qui se retrouvent parfois sur un chantier, au moins cette possibilité-là. Ça aussi, c'est une forme d'inégalité.
C'est une forme d'inégalité liée au métier, mais la fracture qui s'est créée aussi, c'est la capacité individuelle d'utiliser un outil. On peut très bien avoir un bon accès Internet chez soi, mais ne pas être capable d'utiliser la plateforme dédiée de l'entreprise, par exemple. Donc, elle est là, la fracture, plus que dans l'accès à l'outil. Beaucoup de gens l'avaient finalement avant la crise à titre individuel. Alors, évidemment, dans les campagnes, il y a peut-être des connexions évidemment qui fonctionnent moins bien que dans les grandes villes, mais la fracture, on l'a senti plus sur le manque de formation. Les entreprises ont essayé de combler ce manque de formation avec des séances à distance qui ont permis à beaucoup d'entre nous de monter en compétences, mais ça a créé malgré tout une fracture.
En tout cas, à vous écouter, Caroline Diard, on a ce sentiment que cette pandémie a apporté des choses positives dans le monde du travail. On parle beaucoup du développement du télétravail qui pourrait perdurer, qui pourrait être encadré évidemment par des textes. L'ONU affirme que la pandémie a plongé 100 millions de travailleurs supplémentaires dans la pauvreté, alors que le taux de chômage a pas explosé. Le Bureau international estime que voilà, le taux de chômage fin 2020, c'était 8%. C'est 0,4% de moins qu'un an plus tôt, alors qu'il y a eu le bouleversement du Covid. Alors pourquoi ce son de cloche très positif? Alors qu'il y a des... Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces données qui évoquent finalement une aggravation de la pauvreté des travailleurs, un appauvrissement finalement?
Alors, il y a eu un appauvrissement économique parce que certaines entreprises ont dû cesser leur activité en raison de la crise. Donc, ça a mis des salariés, ça les a privés d'emploi. Après, au niveau mondial, il y a des inégalités par rapport à l'utilisation du télétravail. Par exemple, les pays du Nord, traditionnellement, avant la crise, étaient déjà plus habitués au télétravail. Donc, ils ont eu un avantage économique avec cette organisation du travail qui était déjà en place, contrairement à des pays du coup du sud peut-être plus défavorisés qui avaient moins l'habitude du télétravail et qui ont aussi peut-être des métiers, une activité économique qui tourne un peu moins autour des services et du tertiaire.
L'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, estime que l'emploi devrait retrouver son niveau finalement d'avant la crise sanitaire qu'en 2023. Ça montre qu'il y a eu un impact quand même très fort.
Oui, il y a un impact. On le constate au quotidien parce qu'on voit des boutiques qui ont fermé, des activités qui n'existent plus. Alors ça, c'est au niveau vraiment microéconomique et au niveau local. Au niveau mondial, ça a forcément impacté le niveau de richesse des uns et des autres et l'activité économique. Alors ça a supprimé des emplois, ça a supprimé des activités. Mais probablement, ça va aussi en créer d'autres.
Alors, parce c'est intéressant. Voilà, lesquels?
Parce qu'il y a des services qui se sont développés. Par exemple, on a eu une explosion des abonnements Netflix.
Alors, voilà. Là, on est dans des pays très développés à chaque fois, quand même.
On est sur d'autres activités qui se sont développées et qui créent des emplois. Les services de livraison aussi, à domicile, qui ont explosé. Donc, ça a aussi créé des emplois.
Après, et est-ce que ce n'est pas au service d'une précarisation accrue? Parce que là, on cite, par exemple, justement, les livreurs. Ils ont été parfois cités en héros aux côtés des soignants. Ils étaient en première ligne au moment des confinements. Est-ce qu'ils sont considérés à ce juste niveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu la revalorisation qui devrait s'imposer par rapport à ces besoins qui s'imposent aujourd'hui?
Alors clairement non, et je le déplore, et j'ai écrit un article là-dessus sur la fin du salariat justement, en lien avec toutes ces plateformes et l'ubérisation de l'économie. Effectivement, la crise sanitaire a mis en avant ces livreurs et on s'est interrogé sur leur statut. Alors leur statut, c'est souvent un statut de micro-entrepreneur, c'est un statut précaire. La jurisprudence était plutôt constante jusque-là et allait dans le sens de la requalification en CDI, donc une volonté de lutter contre la précarité. Visiblement, le gouvernement va un peu à l'inverse, parce que là, on a une ordonnance au mois d'avril qui va dans le sens de donner des droits collectifs à des prestataires de plateformes avec un statut d'indépendant. Donc, on va davantage vers la libéralisation du travail et cette ubérisation. Ça va être probablement un souci en termes de précarité.
Alors, je voudrais continuer à s'intéresser à ce qui se passe, évidemment, dans le monde du travail, en dehors de la France, en dehors des pays développés, depuis cette pandémie de coronavirus. Et je vais vous poser la question, dans un instant, du travail informel, qui concerne dans le monde 1,6 milliard de personnes, 70% de l'emploi dans les pays émergents et en développement, c'est le travail informel. Évidemment, là aussi, la crise a bouleversé ce modèle très précaire. On va écouter un court témoignage qui nous emmène au Sénégal. Papa Ibrahima Faye, membre du parti présidentiel l'Alliance pour la République. Et je vous écoute ensuite, Caroline Diard.
Il y a une crispation, une colère, un mal-vivre des jeunes, leurs activités, c'est dans le monde informel. À nos jeunes de trouver les capacités de résilience, donc en se formant dans d'autres métiers. Parce qu'on ne peut pas se dire que forcément c'est la pêche qui doit nous guider. Il faut qu'il y ait une diversification.
Voilà, il faut qu'il y ait une diversification. Est-ce qu'on peut avoir une diversification? On a évoqué évidemment le télétravail, ça va être possible d'encadrer, de pérenniser ces systèmes-là. Mais pour tous ceux qui vivaient du travail informel avant la pandémie, comment se renouveler? Est-ce que là, on risque pas de prendre les mêmes et de recommencer finalement?
On risque effectivement d'avoir un développement du travail informel.
Et donc un appauvrissement qui va perdurer.
Une précarisation, effectivement. Oui, tout à fait. Dans la mesure où les entreprises ont laissé faire aussi, bien avant la pandémie, on a laissé les gens travailler en dehors des heures de travail. On a laissé les gens parfois diversifier leurs missions, ce qui fait partie aussi de l'autonomie. Et du plaisir de travailler, faut pas non plus le nier, mais en l'occurrence, ça peut être du travail informel, ça peut aller jusqu'à du travail dissimulé.
Et alors justement, il y a énormément de choses qui ont été mises en place dans les plans de relance. On les cite hein, régulièrement, les plans de relance évidemment des États-Unis, de l'Union européenne. Il y a la Banque mondiale qui a souligné récemment l'effort des gouvernements pour mettre en place des dispositifs de protection sociale face à la crise. Ils sont estimés, ces dispositifs, à 800 milliards de dollars à travers tout justement ces plans de relance. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut gagner en protection sociale? On évoquait le travail informel, il y a du travail, mais en dehors?
Alors, on peut gagner en protection sociale si on part du principe qu'il faut organiser les choses et qu'il faut les cadrer. Ça a été la volonté des partenaires sociaux au mois de novembre. Sur le télétravail, il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été signé, qui vient le 13 avril, en fait, d'être étendu aux entreprises qui dépendent des syndicats signataires. Donc, le 13 avril, c'est paru au journal officiel. Donc là, c'est vraiment un grand pas. Et on voit la volonté des partenaires sociaux de développer le dialogue social pour protéger les salariés et pour leur donner des droits nouveaux si jamais la pandémie venait à revenir, malheureusement, et qu'on était à nouveau tous confinés et en télétravail à temps plein.
Et ça, on le retrouve hors France, cette situation-là?
Oui, alors en fait, notamment en Espagne et aux États-Unis, il y a eu des réflexions par rapport justement à ces salariés précaires qui vont devenir non plus des indépendants de plateforme, mais qui vont avoir des requalifications en contrat. Donc c'est une volonté aux États-Unis, c'est une volonté en Espagne, et on voit que du coup en France on va un peu à l'inverse.
Alors on va conclure avec un peu d'optimisme, parce que vous évoquiez le fait qu'il y ait des nouvelles formes qui puissent émerger évidemment de cette crise, des nouvelles formes de travail. Est-ce que c'est l'occasion de se lancer en tant qu'entrepreneur? On va écouter sur ce point le témoignage de Diana Bell qui vit à Cuba et qui est pleine d'espoir avec un projet qui propose sur commande des produits frais préparés par des jeunes femmes qui ont perdu leur emploi justement à cause de la crise du Covid-19. On écoute son témoignage.
On est une génération d'entrepreneurs en pandémie. Avant, il y en avait bien quelques-uns, mais aujourd'hui, on en voit beaucoup plus, entre ceux qui font des livraisons, des préparations culinaires, de l'artisanat. Et on s'est tous mis en réseau. On travaille avec des personnes qui étaient actrices ou qui travaillaient au théâtre et qui d'un coup n'avaient plus rien à faire et qui se sont mis à faire des livraisons, de la cuisine, de l'artisanat. C'est ça, cette génération d'entrepreneurs. Et je crois que ça va durer. J'espère qu'une fois que la crise du coronavirus sera passée, ça continue. Moi, en tout cas, je veux continuer. Et je pense même que quand la situation reviendra à la normale, ce sera plus facile de trouver nos ingrédients et de pouvoir livrer à d'autres provinces qui sont inaccessibles pour l'instant. J'espère qu'on continuera comme ça, surtout avec les fraîches. Ce projet est un peu devenu mon bébé.
Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on peut partager, Caroline Diard, l'optimisme de cette femme? On sait que des crises naissent les plus grands projets. Est-ce que cette crise, justement, va être porteuse davantage d'entrepreneuriat dans le monde, selon vous?
Oui, effectivement. En fait, le temps qui a été libéré pendant le confinement a été aussi un temps de réflexion, de prise de recul. On a vu émerger des projets entrepreneuriaux chez les jeunes, notamment chez les étudiants. Et puis, effectivement, il y a eu des opportunités qui ne s'étaient pas dessinées auparavant. Donc, des nouvelles idées qui vont, du coup, on l'espère, créer des emplois.
Et en France, à l'étranger, dans les pays développés principalement, j'imagine? Mais ça vient de Cuba, ce témoignage.
Pas nécessairement dans les pays développés, parce que les idées, on le voit bien, elles peuvent naître dans des pays où on n'a pas forcément le même socle économique, mais on a la volonté d'entreprendre, et c'est ça qui compte.
Eh bien, ça fait du bien, un peu d'optimisme sur ce nouveau modèle du travail. Merci beaucoup Caroline Diard, enseignante-chercheuse en management des ressources humaines et droit à l'EDC Paris Business School. C'est la fin déjà de ce décryptage. Restez à l'écoute, débat du jour dans un instant. C'est avec Adrien Delgrange.
Priorité santé.
Caroline.